Vous écoutez France Culture.
Sarah Petitbon a signé le journal et sera de retour à 9h avec les dernières informations. Bienvenue à toutes et à tous dans les coulisses de l'info.
Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître qui était Jacques de Rogy qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bom dia, bonjour, en portugais et en brésilien, puisque tout au long de ce week-end, France Culture conjugue la plupart de ses émissions au rythme du football et du Brésil, à 5 jours de la Coupe du Monde. Et à l'issue d'une semaine marquée par de nouvelles révélations sur les conditions douteuses de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, le secret des sources pose la question, l'enquête journalistique est-elle possible dans le monde du football? Avec nous ce matin, ici en studio, Éric Champel, journaliste à France Football, auteur d'une enquête remarquée justement sur le Qatar, Chérif Guémon, journaliste au magazine SoFoot, et Emmanuel Leclerc, journaliste à France Culture, qui a signé en février un magazine sur le dopage dans le football. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également en ligne avec Martin Boudot. Bonjour.
Bonjour.
Auteur à l'automne dernier d'un numéro passionnant de Cash Investigation sur France 2 à propos de l'argent dans le foot. Et avec nous, la sémiologue Mariette Darigrand et l'homme des images et du multimédia, Éric Chavroux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Jean-Guilain Meige sont ce matin au poste de pilotage. Et comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux. C'est le secret des sources sur France Culture.
It may still be 8 years away, but the 2022 FIFA World Cup in Qatar continues to provoke controversy. The decision to host World Football's premier tournament in the Arab country has courted much publicity for FIFA, but for all the wrong reasons. And on Sunday, Sepp Blatter's troubles continued as a former member of FIFA's executive committee faced fresh allegations over corruption.
C'était dimanche dernier les nouvelles révélations de la presse britannique sur les dessous de table qui semblent avoir présidé à l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Révélation interrogeante également le rôle joué par Michel Platini qui, rappelons-le, dirige l'UEFA, l'organisme qui préside aux destinées du football européen. Au-dessus, il y a donc la FIFA qui régit le football mondial et que dirige le Suisse Sepp Blatter. À 5 jours d'un mondial brésilien dont la préparation fut et demeure chaotique, plusieurs stades ne sont pas encore achevés, ces révélations jettent à nouveau le soupçon sur un monde du football qui semble décidément très opaque. Éric Champel, vous êtes l'un des rares journalistes à avoir enquêté sur la FIFA et sur ce dossier du Qatar. Comment est-ce qu'on procède sur ce genre de sujet et à quel obstacle est-on confronté?
Comment on procède? On cherche d'abord à identifier des sources. Il ne faut pas se leurrer, les gens qui se servent de sources sont des gens qui ont intérêt à faire passer certaines informations. Après, il faut les vérifier, les recouper et puis essayer de... Il faut surtout prendre du temps pour un petit peu évaluer le côté tentaculaire de tout ce qui a pu se passer, notamment avec le Qatar 2022. Il faut du temps, de la patience, de l'obstination, mais on arrive à trouver des choses, il y a des gens qui parlent, et puis aujourd'hui Internet permet de recouper de multiples informations, c'est un outil extraordinaire.
En sachant qu'on peut être l'instrument de jeu de pouvoir au sein des instances internationales, et en particulier de la FIFA.
Forcément, il y a la fameuse histoire, il n'y aurait peut-être pas eu de Watergate s'il n'y avait pas eu Gorge Profonde, je pense que l'exemple le plus récent est celui du Sunday Times, où ils prétendent avoir des millions d'informations, ils ne les ont pas inventées. Donc c'est quelqu'un, on peut penser que ce sont des services secrets ou des agences de renseignement qui leur ont donné ces informations. Nous-mêmes avons eu accès à des informations concernant le Qatar, qui sont des informations qui sont très fouillées, très documentées, qu'on avait peut-être tout intérêt à mettre sur la place publique, justement pour discréditer le Qatar, mais qui n'apportaient pas forcément de l'eau au moulin de notre enquête. Donc là, on est vraiment aussi dans un rôle de journaliste qui consiste à faire la part des choses et à ne pas se laisser manipuler.
Et Éric Champel, Chérif Guémon, on a l'impression dans ce dossier-là et dans bien d'autres d'ailleurs dans le monde du football qu'il y a beaucoup de soupçons, beaucoup de faisceaux d'ailleurs de soupçons concordants, mais que c'est toujours difficile d'apporter des preuves.
On a parlé de la FIFA, mais c'est identique pour le CIO, c'est-à-dire deux organisations absolument opaques, vous avez cité le mot, et c'est des jeux de pouvoir, d'influence, d'argent. ça on le sait. Tout le monde se tient par la barbichette. Et le côté un peu nouveau, le côté un peu différent, comme le disait Eric, c'est tout simplement les contestations de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar viennent essentiellement d'Angleterre.
D'Angleterre, des États-Unis aussi, en soumet les États-Unis jouent.
Parce que c'est les deux pays qui ont été écartés de l'attribution des Coupes du Monde, à savoir celle de 2018 a été attribuée à la Russie et 2022 a été attribuée au Qatar. Donc l'Angleterre était candidate à 2018, ils ont été écartés.
Donc il y a une forme de règlement de compte.
Il y a une forme de règlement de compte et il y a aussi des intérêts, on peut en parler aussi, c'est-à-dire que dans l'organisation, parce que là, dans le cas particulier du Qatar, on se dirigerait de plus en plus vers une Coupe du Monde, a priori organisée en hiver. Et en hiver, l'organisation de la Coupe du Monde...
Parce qu'il fera trop chaud l'été, hein, on le rappelle.
Exactement. Hein. Donc ça va se chevaucher sur la grosse période du foot anglais, c'est-à-dire le Boxing Days. Et c'est une période qui est très, très lucrative.
De Noël et du Nouvel An.
Voilà, il n'y a qu'un championnat dans cette période de décembre-janvier. Ça se passe en Angleterre avec un match tous les trois jours. Et les États-Unis avec aussi les grands sports américains. Donc il y a, entre guillemets, le business de M. Murdoch, qui contrôle pas mal de médias sportifs aux États-Unis, qui vont être en concurrence. C'est des fêtes à ne pas négliger. Donc la mise en accusation du Qatar vient pour pas mal de ces deux pays.
Éric Champel, je reviens à ma question. On sent ces faisceaux de soupçons, mais toute la difficulté pour le journaliste, c'est d'apporter des preuves. Et là, on sent que c'est beaucoup plus compliqué quand même.
Ben oui, parce que d'abord, on est journaliste, on n'est pas policier. Si nous, on avait la possibilité d'avoir, par exemple, une commission rogatoire pour aller à l'aéroport du Bourget ou dans d'autres aéroports internationaux pour avoir les plans de vol de l'émir du Qatar ou de M. Texera, de M. Gondona en Amérique du Sud, les différents vols qu'il y a pu avoir.
Et des mouvements bancaires aussi, et peut-être les vols dans l'autre sens du terme.
On voit qu'il a, je vois que ça sort encore aujourd'hui sur Mediapart, il est question de M. Texera, qui est l'ancien président de la Fédération brésilienne, qui aurait eu un compte bancaire à Monaco. Donc, effectivement, on n'a pas de moyens d'investigation, les moyens d'investigation de la police. Donc, on est obligé de faire avec nos moyens, c'est-à-dire avec ce qu'on peut trouver, ce qui est sur la place publique et avec nos informateurs, c'est-à-dire nos sources. Mais tout ça est à manipuler avec la plus grande prudence parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on nous demande d'apporter la preuve ou qu'on nous traîne en diffamation parce qu'on a été trop loin dans ce qu'on a affirmé.
Charles Guémot ?
Mais aussi dangereux que les révélations avec les informations qui fuitent, il y a aussi la suspicion. Parce que ce qui tient un peu en haleine dans cette histoire du Qatargate, entre guillemets, c'est que nous, de notre côté, notamment en France, on sait que Michel Platini a eu la maladresse, je dirais même peut-être l'inconscience, d'avoir dit qu'il avait voté pour le Qatar. Et malheureusement, ça s'est fait, je veux dire, après le fameux rendez-vous, enfin le fameux déjeuner qu'il y a eu entre l'émir du Qatar, le président Nicolas Sarkozy et Michel Platini. Donc là, on n'en est pas aux preuves vraiment matérielles, mais on est déjà à la suspicion. Mais cette suspicion, elle fait aussi mal que les autres révélations réel de corruption.
Et il y a un autre personnage dans cette affaire, et là je m'adresse à vous Éric Chavroux qui décryptait chaque semaine une image marquante de la semaine dans le secret des sources. Cette image, c'est cette photo, hein, on l'a sous les yeux, c'est une photo bien précise de l'homme qu'on pourrait appeler, surnommer la brebis galeuse, enfin l'homme clé dans ce dossier de corruption, c'est-à-dire le Qatari Mohamed Bin Hammam.
Ou MBH, 65 ans, ancien membre exécutif de la FIFA pour le Qatar. Alors jusqu'ici, il était inconnu du grand public. Et là, on a vu ces photos un peu envahir les journaux cette semaine après les révélations du Télégraphe à propos de sa relation supposée avec Michel Platini. Bon, j'ai pas trouvé d'image unissant réellement les deux personnages, mais plutôt des montages. En revanche, la photo qui revient le plus souvent, c'est cette scène-là qui montre cet homme d'affaires qatari qui va s'expliquer devant le comité d'éthique de la FIFA. On est à Zurich, c'est fin mai 2011. Une image qui date parce que Mohamed Bin Hammam, peu de temps après, en fait, il a été banni à vie du football par la FIFA parce qu'il aurait acheté des voix pour se faire élire justement à la tête du football mondial. Alors, cette image de 2011, elle est signée Stephen Schmidt pour les agences AP et SIPA et elle rappelle une audition par la justice puisqu'en fait, celui qui présida aussi la Confédération asiatique du football, il est assis dans une voiture, il arrive là où il va être interrogé. Et ça fait penser, vous savez, à ces mises en examen ou à ces politiques, là, juste avant...
Il a des lunettes noires.
Juste avant qu'ils arrivent devant le magistrat. Il a des lunettes noires, petite barbe, moustache poivre et sel, costume cravate très sobre tiré à quatre épingles. Et il sourit encore, même si ensuite il deviendra un paria et peut-être, qui sait, un bouc émissaire. Alors, ces lunettes noires, ça fait penser quand même aux soupçons. Il y a aussi à côté de lui un homme qui a l'air très préoccupé, donc là, ça en rajoute. Et enfin, il tient dans sa main une feuille blanche très serrée qui ajoute encore du mystère à cette image.
À travers une image comme ça, est-ce qu'il peut y avoir une tentation de désigner un coupable, c'est-à-dire une brebis galeuse, et de circonscrire un peu l'affaire à « bon voilà, c'est lui, c'est le méchant, et puis il n'y a pas de problème
surtout,
ailleurs ».
Attention à la confusion, c'est il a été auditionné et sanctionné par la commission d'éthique de la FIFA. C'est-à-dire que tout ça reste en interne. À aucun moment, jusqu'à présent, à part dans l'affaire ISL, où il y a eu... Et là, ils ont démontré que qui avait touché des pots de vin, notamment João Avalanche, l'ancien président de la FIFA. Mais en règle générale, et c'est le problème, que ce soit du CIO ou de la FIFA, tout ça reste en interne. Donc c'est très difficile d'avoir... D'autant plus difficile d'avoir accès à des informations...
Sharif Guémour et Emmanuel Leclerc.
Oui, non, mais tout ça pour dire que oui, faut se méfier de la désignation des boucs émissaires uniques. Il est peut-être coupable, on ne sait pas. Bon, voilà,
parce que cette image, elle renvoie ça un peu, cette image systématique très utilisée cette semaine dans la presse.
Oui, bien sûr, mais on pourrait aussi enquêter sur les attributions de toutes les autres Coupes du Monde. Il y a eu des trucs pas nets en 2006. Il y a des pressions et puis du favoritisme. Toujours ces mêmes pratiques. Toujours ces mêmes pratiques.
Emmanuel Leclerc.
Oui, je voudrais juste élargir pour rappeler, vous avez parlé de Michel Platini tout à l'heure, avant ce que disait Éric Chavroux, mais la France s'est beaucoup investie dans cette campagne, et pas seulement Michel Platini, si vous vous souvenez quand même. L'ex-chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, Zinedine Zidane, puisqu'il faut savoir quand même que dans ce genre d'événements que sont les Coupes du Monde, il y a beaucoup de contrats de BTP, et que a priori, les entreprises françaises sont bien parties.
Mais c'est pareil, là, on est dans soupçon, on est dans... Mais voilà,
absolument. Nicolas Sarkozy ne s'en est jamais caché. Il suffit d'aller sur YouTube et de taper dos à gaulle. On voit M. Sarkozy à la tribune et qui dit « Nous avons été un certain nombre à pousser pour la candidature du Qatar, etc. » Il s'en est même flatté. Donc là, on est aussi dans cette espèce d'intérêt supérieur dans les désignations des grandes compétitions qui a toujours joué. Quelle que soit la nature des compétitions.
En tout cas, ces révélations sur la corruption présumée au sein de la FIFA avec de supposés pots de vin qui atteignent quand même des sommes potentiellement faramineuses, elles traduisent aussi un état général du football où l'argent, on le sait, est devenu roi. Et quand l'argent est roi, ça n'est jamais une très bonne nouvelle pour l'enquête journalistique.
Les matchs, les droits télé, les produits dérivés, tout est bon dans le ballon. Le grille-pain de Saint-Étienne, le parfum de l'OL, le peignoir du PSG, les pantoufles de Bordeaux. Le foot en France, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 400 milliards d'euros dans le monde. Mais qui profite de l'argent exactement? Dès que vous vous posez la moindre question sur les coulisses du foot business, il n'y a plus personne.
Martin Boudot, vous êtes en ligne avec nous par téléphone. C'est vous qu'on entend sur cet extrait du magazine Cash Investigation sur l'argent dans le football, diffusé donc en septembre dernier. Ce que l'on en retient, c'est toujours cette extrême difficulté à obtenir des informations. Ça veut dire que vraiment personne ne parle, ni les investisseurs, ni les dirigeants de clubs, ni les agents, personne?
En fait, il y a vraiment une particularité au football. C'est par rapport à tous les domaines d'investigation qu'on peut balayer. Il n'y a pas vraiment de syndicat dans le football, il n'y a pas vraiment d'opposants à l'intérieur du football. Eric Champel l'expliquait très bien. À chaque fois qu'on est contacté, qu'on nous donne des infos, qu'on lâche des infos, comme on dit, c'est dans un but et dans un intérêt bien particulier. Ça se fait de gré à gré, ce sont des contrats privés, donc c'est compliqué d'enquêter dans le football parce que les réflexes journalistiques d'investigation assez classiques ne fonctionnent pas véritablement avec le football parce qu'il y a très peu de rapports, il y a très peu d'enquêtes, comme le disait encore une fois avec Champel, il y a eu une seule affaire judiciaire avec la FIFA, c'était ISL et ça commence à dater. Et voilà, la justice aurait bien intérêt à mettre son nez un peu plus souvent, ne serait-ce que pour récupérer des impôts. Et voilà, donc c'est vraiment pour nous, ça a été compliqué de rencontrer des personnes.
Même avoir de simples rendez-vous, visiblement, c'était très compliqué avec des dirigeants compliqués.
Oui, avec les dirigeants, c'était très compliqué. Il y a des moments qu'on n'a évidemment pas montés. Le PSG n'a jamais voulu nous recevoir. La plupart des grands présidents non plus. On nous a quand même reçus en off. On a pu rencontrer pas mal de personnes en off, mais dès que vous leur dites voilà, est-ce qu'on peut organiser une interview devant la caméra, parler de ce genre de choses, c'est niet, c'est un non définitif. Et ça marche pour les agents, ça marche pour les présidents, ça marche pour les joueurs aussi. On a réussi quand même à en avoir quelques-uns à force d'enquêter. On a quand même passé près d'un an sur un sujet comme celui-ci, et je dois reconnaître que oui, vraiment, ça a été rarement aussi compliqué d'obtenir ne serait-ce qu'un début d'interview ou un début de réponse dans ce milieu-là.
Et l'accès à des documents comptables, encore plus compliqué ?
L'accès aux documents comptables, c'est le Graal pour n'importe quel journaliste sportif, parce qu'ils savent à quel point c'est très difficile d'avoir ne serait-ce que la moindre information sur le contrat ou sur le montant exact de l'indemnité de transfert. Faut savoir que ces contrats, ils passent uniquement entre le joueur et le club, et qu'éventuellement, ça termine sur le bureau de la FFF ou de la Ligue. C'est des contrats qui sont voilà privés, très très confidentiels, et qui expliquent beaucoup de choses. Nous, on a la chance d'en avoir eu après des mois d'enquête, je le répète. Et voilà, c'est vraiment pour nous le document fait foi. Et comme vous le dites, ça nous permet d'éviter les suspicions et d'être beaucoup plus péremptoires et affirmatifs dans nos questions.
Mais avec des bâtons dans les roues qui peuvent être aussi de nature juridique, hein, c'est-à-dire que je crois qu'on vous avait interdit de citer le nom d'un joueur, par exemple, c'est ça, sur un contrat spécifique. Enfin, on met aussi des bâtons dans les roues de nature juridique.
Oui, alors ça, je vais pas vous mentir, c'est le cas dans pas mal de domaines. On reçoit pas mal de lettres d'avocats, de conseils judiciaires. On a donc oui, on reçoit souvent des menaces juridiques, d'attaques en diffamation, etc. Pour le moment, on a toujours gagné ou on a annoncé qu'on nous poursuivrait en diffamation, mais ça n'a pas été le cas. Et donc ça, c'est pas vraiment nouveau par rapport au football. Hein. Je trouve que c'est le cas de manière générale dans l'investigation.
Chérif Guémour, SoFoot.
Oui, je voulais rajouter qu'on parle d'enquête, d'investigation journalistique, mais aussi les enquêtes purement judiciaires, juridiques, parce que en ce qui concerne l'affaire du Qatar, comme l'a très bien développé notre confrère de France Foot, il y a une enquête qui a été diligentée par un procureur américain, c'est ça,
ouais, le juge Garcia. Voilà, ouais, on attend les résultats juste après le Mondial au Brésil.
Qui a un large pouvoir d'investigation et d'audition. En tout cas, il est doté de pouvoirs d'investigation assez élargis et il doit justement rendre son rapport le 9 juin, il me semble.
Non, il termine son...
Il ne sera rendu public qu'après le Mondial au Brésil.
Là aussi, nous, on a eu l'occasion de rencontrer Michael Garcia avec Philippe Auclair à deux reprises. Bon, il se veut indépendant, il veut aller jusqu'au bout, il a vu beaucoup de monde, il a beaucoup de choses, c'est clair, mais il est quand même rémunéré par la FIFA.
Oui, totalement. Il a été nommé par la FIFA.
La FIFA.
Donc ça limite par définition.
Donc forcément, je pense que de même que le président de la chambre de jugement, donc qui est chargé de définir les sanctions qui seront prises, qui est un Allemand, qui est un monsieur très connu à Munich, qui s'appelle Hans-Joachim Eckert, mais il fera quelque part ce qu'on le laissera faire. On n'est pas dans un canal de justice normal. On est dans la justice du sport et c'est la FIFA qui paye.
Je suis pas naïf. J'attends les conclusions.
Martin Boudot, vous vouliez réagir aussi au téléphone ?
Non, je confirme ce que dit Eric Champel. C'est une enquête interne. C'est pas la justice. Donc les pouvoirs, même si ce monsieur est tout à fait honnête et qu'il a une grande carrière derrière lui de procureur, ça reste, comme le dit Eric, la FIFA qui le paye. Donc moi aussi, j'attends avec impatience ces résultats, mais des enquêtes internes, la FIFA en a fait des dizaines. Celle-ci a l'air plus sérieuse que les autres, mais elle en a fait des dizaines. Et pour l'instant, ceux qui sont à sa tête, le système qui est en place est toujours le même. Ce qui changera, je pense, les choses, c'est si un groupe de citoyens ou quelqu'un en son nom porte plainte contre la FIFA et donc déclenche une enquête, ou même que la justice s'autosaisit et développe une enquête sur différentes facettes de la FIFA.
Mais même quand il y a des enquêtes de justice avec des magistrats qui peuvent être des sources et des interlocuteurs pour les journalistes, on s'aperçoit que souvent, rétrospectivement, il y a une forme d'amertume. Enfin, Éric de Montgolfier, par exemple, qui avait instruit l'affaire VOM, quand il parle de l'affaire aujourd'hui VOM, il a beaucoup d'amertume par rapport aux conséquences et aux résultats de cette affaire.
Oui, alors je ne sais pas si la question s'adresse uniquement à moi. Oui, tout à
fait,
pour Éric de Montgolfier, vous avez tout à fait raison. Simplement, sur l'affaire ISL, en Suisse, la justice suisse a quand même fait un vrai gros boulot et c'est la première fois qu'on a eu véritablement des dossiers comptables, des documents comptables prouvant la corruption de haut cadre de la FIFA. Donc, si ça laisse un goût d'amertume à la justice peut-être, mais en tout cas pour les journalistes, c'est sans conteste la preuve la plus irréfutable.
Un mot là-dessus, Emmanuel Leclerc ?
Oui, je veux juste dire que Martin est modeste dans ce qu'il nous dit, parce que durant son enquête, il a quand même réussi à mettre en évidence les circuits financiers que tous ces gens-là, les agents, les joueurs, les clubs utilisent pour faire leurs affaires, leurs transferts, leurs achats, le mercato. Et on voit bien que ces circuits recoupent tous ceux du crime organisé ou des grands circuits internationaux de fraude fiscale. Et on comprend pourquoi ces personnes-là n'ont pas intérêt à accorder des interviews quand on voit que ça passe par les places offshore les plus opaques de la planète.
Oui, non, c'est vrai que ça passe par les îles Vierges, ça passe par la City, ça passe par Hong Kong, ça passe par tous les paradis fiscaux possibles et imaginables. Le Camigliaccio, l'ancien agent de Zidane, est certainement le plus bel exemple avec, je crois, de mémoire, au moins 5 ou 6 paradis fiscaux dans un montage financier très complexe. Donc évidemment, ils n'ont aucun intérêt à nous répondre, mais c'est vrai que là, la justice espagnole, pour le coup, est sur le Camigliaccio et lui a quand même écopé de 5 ans de prison et 9,2 millions d'amendes. Je crois qu'il est en ce moment en Suisse, si je ne me trompe pas, et il n'est toujours pas en prison.
Il est à Neuchâtel, précise Eric Champel. L'enquête journalistique est-elle possible dans le football ? Ce matin, dans Le Secret des Sources, comme toujours, vous commentez, vous critiquez, vous complétez, vous réécoutez aussi et vous téléchargez sur franceculture.fr. Il y a une autre facette du football où là encore, c'est un peu enquête interdite, c'est le dopage.
On veut lutter contre le dopage, mais on veut attraper personne. C'est ça le deal. Et de toute façon, tout est voué à l'échec, puisque c'est le monde du sport qui doit se tirer une balle dans le pied. Donc là, on le voit, le ministre ne veut pas parler, on ne sait rien, alors que le dopage, je veux dire, justement, de ne pas trouver de contrôle positif, de ne pas trouver de dopage dans le football, c'est qu'il y a un problème, hein, c'est que la lutte anti-dopage est zéro, ou alors on a affaire à des martiens.
Le docteur Jean-Pierre de Mondenard, spécialiste du dopage sur France Culture en février dernier, il était l'invité du magazine de la rédaction que nous avions donc consacré au dopage dans le football avec votre enquête Emmanuel Leclerc. Là encore, c'est un peu comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, les accusations de corruption à la FIFA, c'est-à-dire que des soupçons, un faisceau de faits souvent troublants, mais des preuves impossibles à trouver, ou quasiment.
Là, je vais vous donner juste un exemple, l'Agence française de lutte contre le dopage, un seul enquêteur, peu de moyens. Quand je dis enquêteur, pour récupérer d'autres éléments que simplement des contrôles sanguins dont on sait qu'il est facile de passer à travers les mailles du filet.
Et des contrôles sanguins qui disparaissent ou sont détruits. On a l'exemple juste avant la...
Et surtout que la FIFA
n'a
pas
autorisé... années sanguines des joueurs français avant la Coupe du Monde de 98.
Et que la FIFA n'a pas autorisé pendant, je crois, 2-3 Coupes du Monde d'affilée, alors que tout était prêt, les tests 2002-2006, pas de tests sanguins, de l'urine, simplement.
Est-ce qu'il y a une responsabilité des politiques aussi là-dessus ? C'est-à-dire, est-ce que les politiques d'une certaine façon ferme les yeux parce que bon bah voilà, il y a l'arrière-fond patriotique et que bon, il vaut mieux pas mettre le nez là-dedans parce que bon voilà.
Ça c'est l'exemple de 1998, c'est ce que je racontais dans le magazine à l'époque lors de mon enquête, c'est que on avait gardé les échantillons des contrôles antidopage du Tour de France parce qu'avec tous les scandales qu'il avait pu avoir Festina à cette époque-là, mais en 98, il y avait eu des soupçons lors du contrôle de Tignes du stage de l'équipe de France, donc il y avait des soupçons et là on n'a pas gardé les échantillons alors que le test de dépistage allait être, et on le savait, quelques mois plus tard, officialisé, y compris par la FIFA, donc c'est arrivé en 2000, donc ils auraient très bien pu garder les échantillons. Eh bien, pour le foot, officiellement en tout cas, on a décidé de ne rien garder sur tout.
Éric Champel, France Football.
Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, on est à l'époque des Jeux du Cirque et personne n'a envie de dire que les gladiateurs sont dopés. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on l'apprend après coup, quoi. Beckenbauer, à l'époque, avait dit que le Bayern de Munich, on leur transfusait du sang. Les Hollandais, le football total de Johan Cruyff et compagnie dans les années 70, pareil. Donc on peut se poser des questions aujourd'hui quand on voit les finales des Coupes d'Europe, 3 clubs espagnols sur 4, des gens qui courent partout après 50 ou 60 matchs de compétition. Je pense que là, on est dans l'anormalité pour le commun des mortels, mais personne, je crois que ça n'intéresse personne, ni les médias télévisuels, ni les sponsors.
On va en parler tout à l'heure, évidemment.
Etc., de mettre leur nez là-dedans, c'est un peu tuer la poule aux œufs d'or.
Et avec un risque juridique aussi, là encore. On a bien vu avec les enquêtes du Monde sur le Real Madrid et le FC Barcelone, avec les liens plus ou moins avec le docteur Fuentes, donc on rejoint le cyclisme là et le dopage, menace de représailles juridiques, demande d'amende colossale. Enfin,
300 millions d'euros.
Oui, donc il s'agit bien de dissuader la presse d'enquêter quand même.
Voir ce qui s'est passé, ou quand même c'est allé un peu plus loin, où là il y a quand même eu procès autour de la Juventus de Turin à l'époque avec Zidane et Deschamps. Mais bon, je crois que personne ne veut véritablement aller jusqu'au bout de ces choses-là et sans cesse venir avec le dopage sur le devant de la scène, parce qu'une fois encore, c'est un petit peu tuer la part de rêve que véhicule le football pour des millions de gens.
Charles Guimau ?
Non, mais c'est surtout qu'en matière de foot, qui est le sport le plus populaire du monde, si on admet qu'il y a du dopage, on va savoir qu'il est généralisé. Et ça, c'est une vérité terrible à éventer. Parce qu'il n'y a pas qu'une équipe, qu'un joueur ou qu'un club. Ils se dopent tous, ou alors personne ne se dope. Mais s'il y en a un qui se dope, on peut légitimement croire que c'est généralisé.
Ou alors c'est tous des martiens, comme disait Jean-Pierre de Mondenard.
Après, il y a des laboratoires qui sont plus perfectionnés, plus...
On a évoqué depuis le début de l'émission toutes les sources possibles sur le football que sont les dirigeants de clubs, les agents, les médecins aussi, les politiques, etc., les magistrats. Il y a quand même une source d'information centrale, a priori, dont on n'a pas encore parlé, c'est le joueur lui-même. Mais on a l'impression, là encore, qu'aujourd'hui, il n'y a plus moyen d'accéder au joueur lui-même, qu'il y a une telle armada de communicants autour, que tout est verrouillé. Vrai ou faux ?
Tellement vrai.
Alors, Eric Champel d'abord, et puis après Martin Boudot.
Ouais. C'est un sujet qu'on veut traiter dans France Football, qui va s'appeler le foot confisqué, où on s'aperçoit aujourd'hui que tout est confisqué dans le football. Les images, pour la première fois, les images de la Coupe du Monde, il faudra, pour aller voir certains matchs, aller sur beIN, c'est-à-dire une chaîne à péage, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et la parole du football est également confisquée parce que les joueurs sont devenus inaccessibles, ou quand ils sont accessibles, c'est dans des conditions bien particulières, c'est-à-dire dans des grandes salles de presse des fédérations où l'entrée...
Et avec une communication ultra verrouillée.
Oui, complètement. Et de toute façon, l'accréditation est à discrétion de la fédération, puisque là, on est sur le territoire de la fédération. Après, il y a aujourd'hui ce qui pose problème, c'est Twitter, etc., les réseaux sociaux, mais on voit que les fédérations ont pris la mesure de ça en donnant des directives assez précises à tous les joueurs pour qu'ils évitent de déraper ou d'exprimer leurs états d'âme sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, la parole footballistique aujourd'hui est complètement confisquée.
Martin Boudot ?
Imaginez que pour pouvoir rencontrer un joueur, il faut passer par son sponsor, par Nike, par Adidas, lors de rencontres où on va mettre en avant la marque parce que le joueur sort des nouvelles chaussures ou un nouveau ballon, et c'est une façon comme ça de pouvoir le rencontrer. Sinon, en dehors de ça, c'est très très compliqué. Je rejoins absolument Eric Champel sur le fait de le football confisqué, c'est totalement ça. Et puis même quand vous avez accès aux joueurs, je reparle de mon enquête, pardonnez-moi, mais quand on a accès à Eliakim Mangala, qui est quand même en équipe de France, là qui part pour la Coupe du Monde au Brésil, on lui parle de sa situation, c'est-à-dire qu'il est détenu par deux fonds d'investissement différents.
Parce que les joueurs sont détenus par des fonds d'investissement, c'est de ça dont
on parle.
Pas tous. Enfin, certains.
Pas tous, oui, pas tous, certains.
Avec des pourcentages, 15%, moi je tiens la cheville, toi tu tiens la tête, etc.
Et il apprend, en fait, quasiment avec nous. C'est-à-dire qu'on lui parle de ses fonds d'investissement, il me dit, bon oui, j'en avais entendu un peu sur Internet, et je n'ai absolument rien signé, puis on lui parle d'un autre fonds d'investissement qui lui est beaucoup plus opaque, et là il nous dit, ah non, ça je ne savais même pas, etc. Donc il y a aussi un grand intérêt à ne rien dire aux joueurs, à laisser le plus possible dans l'ignorance pour finalement que les autres intermédiaires, si j'ose dire, qui sont autour de lui, lui gèrent sa carrière, et c'est eux qui prennent, t'inquiète pas, on s'en occupe, juste joue au foot et tu verras, ça va bien se passer.
Eric Champel, tout à l'heure, Eric Chavroux, évoquait Twitter et les réseaux sociaux. Est-ce que vous, qui travaillez en permanence pour le Secret des Sources sur le multimédia et les réseaux sociaux, est-ce que ça change quelque chose à la communication des joueurs ? Est-ce qu'ils permettent ou pas, ces fameux réseaux sociaux, de rétablir une forme de communication directe avec les joueurs ou pas du tout ?
Je ne suis pas spécialiste en foot, mais je voyais récemment le journaliste de Libération, Grégory Schneider, qui détaillait toute cette communication ultra cadrée, verrouillée, et qui disait que tout de même, Twitter restait un peu un espace, une source. Alors évidemment, on pense au dérapage, au tweet clash, ça s'est beaucoup multiplié entre joueurs. Il y a eu aussi des questions privées qui ont basculé sur le réseau, comme récemment Olivier Giroud. Là, il y a l'entourage aussi qui s'y met. On pense aussi à la compagne de Nasri. Qui a carrément insulté
Didier Deschamps.
Le sélectionneur, et puis du coup Nasri lui-même qui a corrigé le tir, et même les dirigeants. Puisque figurez-vous que le patron de Lyon, Jean-Michel Aulas, s'y est mis plusieurs fois. Et par exemple, il y a un an, il taclait son attaquant, Bafé Gomis, devant près de 50 000 abonnés sur son compte.
Tout ça va rentrer dans l'ordre de toute façon, parce que c'est les nouveaux réseaux sociaux, donc le truc on contrôle
pas. La com va progressivement brider l'affaire.
En plus, c'est surtout une question de génération, c'est une façon de s'exprimer sur les réseaux sociaux que l'autre génération ne maîtrise pas, mais très très vite, ils vont comprendre le danger à justement ne plus pouvoir contrôler la communication des joueurs.
Ils l'ont déjà compris.
Alors c'est justement ce que j'allais dire, parce que ça progresse, c'est-à-dire que, par exemple, Raphaël Varane, qui n'est pas forcément ultra connu du grand public, mais sur Twitter, c'est le joueur le plus suivi. Il a 1 200 000 abonnés et il a le double sur Facebook. Il a un expert dédié pour les réseaux sociaux avec une agence qui le conseille. Et puis les marques, elles ne sont pas folles, elles se rendent compte de l'opportunité que ça ressemble, du public que ça draine. Et par exemple, il y a quelques jours, il y a un équipementier en quatre lettres, je ne le citerai pas, qui semble bien avoir organisé un tweet clash entre Zlatan Ibrahimovic et Eden Hazard, tweet clash marketing, pour en fait glisser le nom de leur chaussure commune qui va être lancée là à l'occasion de la Coupe du Monde.
À 5 jours donc de la Coupe du Monde au Brésil. Le secret des sources sur France Culture s'interroge ce matin sur la capacité journalistique à enquêter dans le football. Avec Eric Champel de France Football, Chérif Guémour de SoFoot, Emmanuel Leclerc de France Culture et Martin Boudot qui était avec nous par téléphone dans cette première partie de l'émission et que je remercie. Dans un instant, prise de distance avec la sémiologue Mariette Darigrand.
Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.
Donne à la Mano Negra, Mariette Darigrand, vous êtes sémiologue, membre, je le rappelle, de notre cercle d'observateurs des médias dans le secret des sources. Il y a, on l'a bien compris, je crois, l'argent qui, par ses implications, empêche ou limite le travail journalistique dans le football. Mais il y a d'autres paramètres. Il y a des paramètres sans doute plus psychologiques, voire sociologiques. On peut dire que le footballeur est devenu une sorte d'icône en partie intouchable. Et on pourrait même dire qu'il incarne une forme de virilité perdue de l'homme politique.
Oui, en tout cas, il incarne un modèle masculin très très fort, peut-être le plus fort aujourd'hui. Vous remarquez que sont des sportifs et très souvent des footballeurs qui remplacent les acteurs pour représenter des marques de parfums, de vêtements, etc. Et ça s'est vraiment multiplié, ça pouvait être des exceptions. Et aujourd'hui, c'est vraiment les marques préfèrent avoir affaire à des gens qui ont des corps magnifiques. Donc ils incarnent en effet le masculin, la puissance masculine, qui par ailleurs est demandée dans la société, en particulier par les jeunes générations, la génération Y, qui vit le trouble dans le genre, dont les parents et les pères ont été un petit peu bousculés par le féminisme des mères, etc. Ils ont besoin de s'identifier à des figures. Alors effectivement, ce qu'on peut remarquer, c'est que le sportif est au centre de cette aspiration-là, par opposition, disons, à l'intellectuel, ça se comprend, mais même au politique. Donc, vous avez aujourd'hui plutôt l'inversion.
Qui apparaît impuissant, en plus, aujourd'hui, hein,
le politique, avec vraiment dans ces termes-là, c'est vrai qu'il y a un paradigme qui est comme ça, l'impuissance publique, et puis la puissance du sportif, extrêmement incarné, et qui aujourd'hui dépasse la question du corps. Non seulement ils ont des corps magnifiques, puissants, plus bigger than life, mais aussi ils font des affaires. Ils savent être des chefs d'entreprise. Alors, il y a les affaires au mauvais sens du terme, dont vous venez de parler, mais il y a aussi l'entreprise intéressante. Prenons l'emblème de ce changement de nature du sportif
Beckham.
Beckham est un empereur du business aujourd'hui. En plus, il est marié avec une impératrice du business. Donc, on voit bien là que ce sont des gens pas simplement beaux et supérieurs physiquement. Ils sont intelligents, ils sont smart au sens de la
et qui incarnent les valeurs de cette société, qu'on le veuille ou non. Enfin, voilà, l'argent, la mode, l'apparence, la beauté, etc., etc.
Voilà, la façon dont Beckham utilise son corps pour le vendre aux marques est très intéressante. Parce qu'il a une sorte d'humour et de distance. Quand on voit certaines publicités qu'il vient de faire, on voit bien que c'est lui qui garde la main. Il y a des sportifs peut-être qui ne savent pas très bien ce qu'on fait de leur corps par rapport au fonds de pension, mais il y a aussi ceux qui visiblement sont vraiment powerful. Ils ont le pouvoir, ils savent très bien gérer leurs affaires. Et du coup, ils sont des, comment dire, des leaders du monde contemporain, enviés par les politiques, du coup.
Ça veut dire, messieurs, qu'il y a un poids symbolique très, très lourd, quand même, sur les épaules aussi du journaliste qui commence à vouloir déterrer les méchantes petites bêtes. Hein, parce que si, a fortiori, le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur n'a pas spécialement envie qu'on lui livre la vérité, si la vérité est noire, ça ne facilite pas le travail du journaliste.
Exactement, ce sont des gens qui sont en pleine lumière et apporter une contradiction qui va mettre un petit peu en avant leur part d'ombre, c'est pas évident, parce que on peut penser que le terreau n'est pas forcément favorable, que les gens n'ont pas du tout envie qu'on brise un peu ce miroir ou cette belle image, effectivement. Et on peut le voir d'ailleurs, je pense que c'est pas quelque chose qui est courant dans la presse sportive, c'est pas culturel d'être dans une forme d'investigation et de dénonciation de ce qui se passe dans le monde du sport et dans le monde du football, parce qu'on est plutôt au contraire dans une forme de magnificence de la performance. Mais ça, c'est pas la faute des journalistes, je pense que c'est plutôt culturel comme posture, parce qu'on vante l'exploit sportif.
Ouais, mais il y a pas vraiment.
Cher argument.
Non, mais déterrer la part d'ombre des footballeurs, enfin des super-héros d'aujourd'hui, c'est possible. Mais je veux dire, dans le cadre même du journalisme, l'autocensure, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'il va y avoir des représailles. Des représailles au niveau des clubs, au niveau des sponsors et tout. Je veux dire, commencer à parler de tel joueur qui s'est mal comporté. C'est aussi se fâcher avec le club, se fâcher avec le joueur. Si c'est vraiment un grand joueur, il n'y aura plus d'interview de ce grand joueur. Et après, il y a les représailles du club, ce genre de choses. Mais on peut, hein, c'est pas. Mais on prend des risques.
Icône, mythologie, France, black, blanc, beurre. Remember, souvenez-vous, juillet 98.
Et ballon écarté, Dugarry qui était venu dans ses 16m50.
À gauche, ils reviennent pas les Brésiliens.
Allez,
à gauche,
Emmanuel Petit.
Allez, à gauche.
Petit. Et but.
Et troisième
et
but
d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute.
Et 1 et 2 et 3-0, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet lors de la finale en 98 au Stade de France. Dans cette difficulté qu'ont les médias et les journalistes à enquêter sur le football, il y a aussi quand même, il faut bien en parler, on l'a légèrement esquissé tout à l'heure, mais des responsabilités inhérentes aux médias. Enfin, je veux dire, les médias, pour certains d'entre eux, sont jugés partis. J'ai même envie de dire ils sont plus partis que juges. Ils ont un intérêt dans l'affaire.
Ouais, mais je dirais quand même qu'aujourd'hui, faire de l'investigation, ça a d'abord un coût. Ça coûte de l'argent de mobiliser quelqu'un et Martin, qui a parlé tout à l'heure, est bien placé pour en parler puisqu'il a travaillé, moi je l'ai rencontré, il a travaillé pendant une année pour ce sujet. Donc ça a un coût, ça demande de mobiliser quelqu'un. Et aujourd'hui, l'état de la presse, de la presse écrite notamment, ne permet pas forcément de
pas seulement, TF1, Canal+, Beansport n'ont pas nécessairement intérêt à tuer la poule aux œufs d'or.
Non, mais Canal+ fait par exemple une émission qui s'appelle Enquête de foot, qui je trouve est plutôt bien ficelée et qui va sur des sujets qui sont intéressants.
Donc il n'y a pas nécessairement d'autocensure des médias sur le sujet.
Et parfois dérangeant. Non, je pense qu'il n'y a pas forcément d'autocensure. La question, c'est de savoir si on a quelque part envie de se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire d'apporter une part d'ombre sur un produit phare qui fait de l'audimat ou qui permet de vendre son...
L'enquête de Martin pour Cache Investigation a été diffusée sur...
France 2.
France 2, qui n'a pas de partenariat avec, me semble-t-il, la Fédération française de football.
Est-ce que
si ils en ont un, parce
qu'il n'y a pas de droit de diffusion, ils payent pas de droit de diffusion.
Si, mais bien sûr, puisqu'ils retransmettent la Coupe de France, donc ils sont liés. La France Télévisions est liée à la Fédération française de foot. Et ils se sont pas gênés d'ailleurs pour piéger Noël Le Graët. Ils sont liés à la Fédération pour les droits télé de la Coupe de France.
Est-ce que c'est pas plus facile d'enquêter sur ce genre de sujet quand on est quand on appartient à la presse généraliste ou quand on est journaliste, on va dire généraliste, plutôt que journaliste sportif, précisément, parce que si on est journaliste sportif ou spécialisé football, ben, on va se griller son carnet d'adresses, comme disait Chérif Guémour.
C'est exactement ça. Vaut mieux ne pas être professionnel de la profession, comme aurait dit Godard. Dans la presse non spécialisée, il y a des bonnes enquêtes, il y a des bons articles, des bons dossiers. C'est pas une spécificité propre au monde des journalistes de sport en général et de foot en particulier que de sortir les affaires et les sortir bien.
Mais il n'y a quand même pas une culture de l'investigation chez le journaliste sportif. Enfin, c'est assez rare, Eric.
Non, mais je prends un exemple qui est celui des quotas qui était sorti à l'époque. C'est le site Mediapart qui avait sorti ça. Or, on sait aujourd'hui que la personne qui a donné les informations de l'enregistrement, bon, il avait été, c'est l'enregistrement d'une réunion à la Fédération française de foot à laquelle assistait le DTN et Laurent Blanc, un sélectionneur, où il avait été dit qu'on pourrait peut-être envisager un certain nombre de quotas pour éviter qu'il y ait trop de grands blagues dans les équipes de jeunes. Je résume, mais c'est à peu près ça. Donc, quelqu'un a eu cet enregistrement à sa possession et l'a transmis à Mediapart. Pourquoi ? Parce que la personne en question, dont on peut supposer que c'est un ancien joueur, mais parce qu'elle considérait que ça aurait beaucoup plus d'impact et que ça irait beaucoup plus loin dans le questionnement si on le donnait à Mediapart qu'à l'équipe ou à un média estampillé uniquement sportif.
Emmanuel Leclerc.
Il y a aussi le phénomène des accréditations quand même dans les stades. Quand vous voulez suivre l'actualité du football, moi je me souviens il y a 20 ans quand j'ai commencé au service des sports à Radio France à Bordeaux, c'était des discussions autour il fallait des accréditations pour aller au stade. Et on était quand même quelques années après l'affaire Baize, et moi je me souviens de discussions à ce sujet-là, en disant si jamais on était les premiers à dégainer, forcément on peut oublier notre accréditation pour ensuite aller retransmettre les matchs tous les samedis. Mais c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, quand j'ai enquêté là, pour mon magazine sur le dopage dans le foot, il me semble qu'aujourd'hui il y a toujours des clubs qui appliquent ces accréditations-là. Elles avaient disparu, elles ont été réintégrées. Alors officiellement, c'est parce qu'il faut gérer tous ces médias qui veulent suivre le football. Mais en même temps, ça fait peser une chape de plomb sur les reporters.
Mais donc, ça veut bien dire, excusez-moi messieurs, ça veut bien dire qu'à ce moment-là, il vaut mieux être un journaliste, on va dire, généraliste. C'est le cas d'Emmanuel Leclerc, par exemple, qui est un journaliste, on va dire, d'investigation, plutôt que d'être un journaliste sportif.
Non, il faut accepter les conséquences. France Football est bien placé pour en parler, puisqu'on est interdit de séjour, entre guillemets, au Paris Saint-Germain pour avoir sorti le Qatar Gate. Et donc, on n'a eu aucun accès direct aux joueurs du PSG. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des joueurs du PSG par d'autres canaux. Et de toute façon, nous, à France Foot, on estime qu'on est assez fort et qu'on est assez crédible et on veut aller jusqu'au bout de nos idées. Et tant pis si on n'a pas accès direct aux joueurs du Paris Saint-Germain. On accepte complètement les conséquences, mais on a envie de faire du vrai journalisme.
Ce que vous évoquiez au début de l'émission, c'est aussi quasiment la nécessité, si on veut, par exemple, enquêter sur un dossier comme le Qatargate ou comme la FIFA, c'est la nécessité pour le journaliste, qu'il soit sportif ou généraliste, d'avoir une compétence qui est quasiment financière. Oui. Comme quelqu'un qui enquêterait sur Offshore Leaks ou sur Clearstream.
Alors, j'ai eu Philippe Auclair, qui est mon confrère avec lequel on a fait le Qatargate, qui est à Londres, qui a eu en direct au téléphone et les deux journalistes du Sunday Times, donc qui ont collationné, qui sont en possession de toutes ces informations. Ces deux personnes sont isolées du monde, même leurs propres confrères et consoeurs ne savent pas où ils sont. Ils sont dans une petite pièce et ils épluchent les informations. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé complètement en sous-marin. Le Sunday Times a dit « Ok, on prend le parti de dédier deux journalistes pendant le temps qu'il faut pour sortir des infos sur le Qatar et enquêter. » C'est d'ailleurs pour ça que le Daily Telegraph s'est complètement mêlé les pinceaux, parce qu'ils ont été pris de court, ils ont sorti cette histoire trop rapidement sur Platini, qui n'a ni queue ni tête. Michel Platini, il n'est absolument pas corrompu. Ce n'est pas parce qu'il a rencontré Bin Hammam qu'il est reparti avec une valise de billets. Mais ces gens-là sont dédiés depuis des mois à une enquête sur le Qatar et l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Donc c'est un choix éditorial.
Mais encore une fois, ça nécessite une qualification très particulière, voire une qualification de journaliste financier. Enfin, et sur le dopage, ça nécessite probablement une forme de qualification de journaliste médical.
Complètement.
On peut se faire aider. On peut se faire aider par un spécialiste des finances, de comptabilité, pareil pour le dopage, avec des experts médicaux, de toute façon.
Et ça nécessite d'abord un réseau. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire que ça nécessite d'autres compétences et qu'effectivement, soit on peut se faire aider, soit on peut penser que va émerger une nouvelle génération de journalistes qui aura été formée pour ça et qui aura toutes ces compétences, c'est-à-dire des compétences juridiques, des compétences financières et des compétences dans le sport pour avoir le réseau suffisant pour frapper aux bonnes portes. On peut rêver.
Mais malgré tout, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de pression dans un certain nombre de médias pour limiter l'enquête sur ces sujets-là ? Compte tenu des intérêts bien compris des médias sur les droits de retransmission, etc. etc.
Bah, c'est des pressions, je dirais, qui sont insidieuses. On sait très bien que si on va soulever un lièvre, on va forcément se fermer certaines portes. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on n'aura plus accès aux joueurs, on n'aura plus accès je dirais, la partie mergée et le côté un peu clinquant, le côté un peu clinquant du football. Mais une fois encore, faire de l'investigation dans le sport et dans le foot, c'est certes des moyens, mais c'est avant tout une volonté éditoriale. Je crois que France Foot l'a eu, Cash Investigation l'a fait, donc c'est la preuve que c'est faisable.
Emmanuel Leclerc.
Dans l'affaire de la Juventus de Turin, il y avait tous les éléments. Il y avait tout, et ça s'est terminé comment au bout de quelques années, en eau de boudin judiciairement, et les révélations des médias ont été perdues, enfin, sont passées par perte et profit, puisqu'il a été dit que dans les personnes qui avaient été prises, il figurait Didier Deschamps.
Et Zidane
sans, peut-être. Moi, ce n'est pas les infos que j'avais, mais
ils ont été auditionnés tous les deux, avec le verbatim. Hein.
Et ça s'est terminé comment? C'est extrêmement compliqué. Ça ne peut pas aboutir. Alors que là, il y avait tout.
Le secret des sources. Vous connaissez le principe. C'est toujours Yacine Bouzard qui a le dernier mot dans le secret des sources. Aujourd'hui, je crois qu'il veut filer la métaphore du ballon rond. C'est-à-dire qu'enquêter sur le football, c'est comme essayer de marquer un but à une équipe italienne qui est regroupée en défense. Vous voyez ce que je veux dire? Autant siffler tout de suite la fin de la partie.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouvons en direct Patrick et Ali pour ce match au sommet opposant l'équipe des enquêteurs à celle de la FIFA. Bon match à tous.
Merci Joséphine. Et oui, ici en direct, la température est idéale. La pelouse a été soigneusement arrosée. Les joueurs sont sur le terrain. L'arbitre de la rencontre s'apprête à donner le coup d'envoi de ce match qui s'annonce très, très, très serré, n'est-ce pas, Ali ?
Eh oui, Patrick, l'équipe des enquêteurs possède une attaque de feu, mais il leur faudra transpercer cette défense de la FIFA que l'on sait hermétique.
Et c'est parti ! L'arbitre siffle le début de la rencontre. Les enquêteurs ont la balle. Longue transversale là-bas vers l'aile droite. L'enquêteur tente un débordement, mais l'arrière-gauche de la FIFA, toujours très solide, bloque la balle.
Oui, Patrick, les enquêtes sur les affaires de corruption de Joao Avelange, l'ancien président de la FIFA, n'ont pas abouti.
L'enquêteur récupère la balle. Il fonce là-bas vers l'aile gauche, mais il vient s'empaler sur l'arrière-droite de la FIFA. Bonne défense, n'est-ce pas, Ali ?
Eh oui, Patrick, les affaires des dessous de table à la FIFA n'ont toujours pas été élucidées.
Et le numéro 10 de l'équipe des enquêteurs, qui tente tout de suite là une percée dans l'axe, il tire et shoot et le but ! Mais c'est incompréhensible ! L'arbitre refuse le but !
Eh oui, Patrick, on le sait maintenant, l'enquête sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar n'aboutira jamais.
Mon cher Ali, je crois que l'on peut dire ceci ce soir. La FIFA, c'est beaucoup plus fort que toi.
Hola, c'est l'hymne officiel de la Coupe du Monde au Brésil. Les 2 ou 3 milliards de téléspectateurs du Mondial qui débute jeudi prochain n'ont sans doute pas fini d'entendre ce morceau dans le mois qui vient. L'enquête journalistique est-elle possible dans le football? Vous commentez, vous réécoutez, vous téléchargez comme chaque semaine sur franceculture.fr. Chérif Guémot, Eric Champel, Emmanuel Leclerc, Martin Boudot, Mariette Darigrand, Éric Chavroux étaient ce matin dans le secret des sources. Merci à tous. Et pendant tout le week-end donc, plein de rendez-vous sur le football et le Brésil sur France Culture. Le prochain avec Jean-Noël Jeannet à 10h tout à l'heure. Auparavant, dans quelques minutes, après le journal de Sarah Petitbon, réplique ce matin, qu'est-ce qu'un réac ? Alain Finkielkraut reçoit Laurent Geoffrin et Denis Tillinac. Prenez soin de vous.
France Football est bien placé pour en parler puisqu'on est interdit de séjour entre guillemets au Paris Saint-Germain pour avoir sorti le Qatar Gate, et donc on n'a eu aucun accès direct au jour du PSG. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des joueurs du PSG par d'autres canaux, et de toute façon nous à France Foot on estime qu'on est assez fort et qu'on est assez crédible et on veut aller jusqu'au bout de nos idées.
Il y a eu une seule affaire judiciaire avec la FIFA, c'était l'ISL et ça commence à dater. La justice aurait bien intérêt à mettre son nez un peu plus souvent, ne serait-ce que pour récupérer des impôts.
Déterrer la part d'ombre des footballeurs, enfin des super-héros d'aujourd'hui, c'est possible, mais je veux dire, dans le cadre même du journalisme, l'autocensure, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'il va y avoir des représailles. Mais on peut, hein, je veux dire, c'est pas, mais on prend des risques.